Bonjour, bienvenue à la table ronde consacrée à Infinity 8 pour parler de cet ensemble d'albums. J'ai le plaisir de recevoir Lewis Trondheim. Pour faire court, car la carrière est impressionnante, vous cofondez l'association 90. Lapineau et les carottes de Patagonie, 92, est un récit de 500 pages en format gaufrier, de 4x3, au récit libre. En 93, vous participez à la création de Loubapo, donc l'ouvroir de bande dessinée potentielle, mais que vous aviez anticipé, enfin, en termes de contraintes, en publiant en 91, moins d'un quart de seconde pour vivre avec Jean-Christophe Menu. Et pour citer que quelques autres travaux, les cosmonautes du futur avec l'arsenal au dessin, la série des donjons, etc. Olivier Vatine, vous êtes évidemment d'abord connu pour la série Aqua Blues, avec Thierry Calto au scénario, suivent entre autres Star Wars pour Dark Horse et Six Feet 3 avec Arleston, et l'adaptation de New York, d'après Stephen Wool. Fabien Vellman, vous êtes scénariste, travaillant beaucoup pour Spirou au départ, c'était même une obsession. Avec Gwen de Bonneval, Cyril Pedrosa et Hervé Tancrel, vous fondez la revue Le Professeur Cyclope. Et avec toujours Gwen, vous créez Les Derniers Jours d'un Immortel qui obtiendra le prix du meilleur album des Utopiales 2010. Alors, le projet est un... Enfin, le projet qui... Je dis le projet parce qu'en fait, la... il y a 8 albums de prévus et tous ne sont pas encore parus. Il y en a 5 de disponibles. Le 6e arrive dans les kiosques en janvier, normalement.
En janvier, mais pas en librairie. En librairie, pas en kiosque, oui.
Oui, oui. Et il y en aura encore donc 2 autres pour arriver à 8. Est-ce que vous pouvez déjà présenter le projet dans sa globalité pour ceux qui auraient été sur une île déserte près de Saturne depuis quelques mois?
Ça commence par un Spirou?
Ça commence par un poker. Olivier et moi, on habite Montpellier tous les deux. Olivier depuis maintenant 6 ans, 7 ans?
Ouais, c'est ça, 7 ans. Ouais.
Et on joue au poker régulièrement ensemble. Des petites mises, hein, on n'est pas des foufous.
C'est moi qu'ils ont misé.
Des grosses allumettes.
J'ai perdu. Et c'est vrai que la première possibilité de relation tous les deux, c'était pas du tout sexuelle, mais c'était juste de dire, tiens, tu me fais un scénario pour Spirou, et je lui ai proposé une histoire comme ça, avec un paquebot intergalactique, avec Spirou qui serait un groom. Et puis ça, il est parti plutôt sur faire... c'était Six Feet,
faire New York.
New York, oui. Ouais. Et c'est passé un peu dans les limbes. Puis après, il m'a recontacté en me disant est-ce que tu n'as pas une idée d'un truc de SF un peu concept, 60s, pulp? Je lui ai dit non, je n'ai pas d'idée. Puis je suis très très pris. Et 3 jours après, je le rappelle en disant j'ai une idée. Parce que j'ai une machine un petit peu dans la tête, que, malgré moi, qui fonctionne tout le temps. Et je lui ai dit écoute, on va au restaurant, je te pitch le truc. Si ça te plaît, tu me payes le resto, sinon je paye ma part.
Ouais, et il a pris les trucs les plus chers et j'ai payé le resto.
Et donc le concept, c'était, voilà, il y a un vaisseau intergalactique, donc j'ai récupéré l'idée du Spirou, mais après, on part complètement sur autre chose. Donc le vaisseau est entre la Voie Lactée et Andromède, et au bout de 3 semaines de voyage, il est bloqué par une espèce de masse énorme, grande comme un système solaire, composé de tumulus, de cercueils, de mausolées, etc. Et ils ne savent pas pourquoi il y a ça ici. Et comme il faut 3 semaines pour qu'un autre vaisseau arrive pour enquêter, le capitaine, qui est une race extraterrestre un peu particulière, dit « je vais faire enquêter un agent ». Et lui, le capitaine a une faculté particulière, c'est qu'il peut explorer le temps sur 8 heures. Et si ça lui convient, il continue. Si ça ne lui convient pas, il peut revenir en arrière 8 heures avant et lancer quelqu'un d'autre sur l'enquête. Et donc c'est ce qu'il fait 8 fois, de façon à ne pas perdre de temps sur le trajet commercial. Et donc petit à petit, on apprend pourquoi il y a cette espèce de cimetière intergalactique.
Il y a eu d'abord, avant la sortie des albums, une prépublication vraiment en fascicule, en pulp.
En comics, oui. Ouais. Chaque album était séparé en 3.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, comment le récit, le premier, a-t-il été travaillé en termes de structure pour qu'il puisse facilement être séparé justement en trois?
Alors en fait, j'ai travaillé sur chaque album avec un co-scénariste et un dessinateur différent. On travaillait généralement, on se croisait par exemple avec Fabien, on s'est croisé deux jours à Lyon. Lui habitant Nantes, moi habitant Montpellier, on s'est dit que c'était exactement au milieu. Mais on n'est pas bon en géographie.
Ouais, c'est ça.
Bah, sinon, c'était Clermont-Ferrand, on n'avait pas envie, je crois.
On a essayé Oslo un temps, et puis.
Donc, avec chaque co-scénariste, on a passé deux jours, on travaillait sur la structure, les personnages. Et moi, après, de mon côté, je revenais chez moi et je travaillais le découpage dialogué seul, que après je faisais valider au co-scénariste. Et mon découpage dialogué, je faisais en sorte qu'à la page 30 et à la page 60, il y a un effet de chute, de façon à ce que ce soit, sécable. C'est bien sécable. Pour si jamais aux États-Unis un jour, ils voudraient faire des publications en comics. Et puis avec Olivier, on s'est dit, ah ben, c'est quand même bien qu'on fasse ça aussi en France. Et on a demandé à Ruth Sèvres, l'éditeur, s'il ne voulait pas faire ça un petit peu de manière exceptionnelle pour les deux premiers albums.
Qu'est-ce qu'il y a dans les fascicules qui sont absents des albums?
Des couvertures inédites, des bonus principalement à la fin, making, fausse pub.
Déjà dans les albums, il y a de toute façon un petit peu de making-of et de coulisses qui sont sur les dernières pages.
Ouais, ouais. Exact.
Mais dans les comics, effectivement, il y a dans l'album avec Vatine, donc lui, il voulait utiliser des nazis. Donc on a fait un mot croisé en forme de croix gammée.
Simple et de bon goût.
Simple et de bon goût.
Alors d'où vient la volonté? Bon, il y a eu déjà des exemples avant, hein, je pense à certains albums chez Glénat et autres, mais d'où vient la volonté de vouloir sortir les albums le plus rapidement possible plutôt que finalement de faire attendre les lecteurs pour le prochain opus?
On est sur un rythme à peu près, enfin les deux premiers albums sont sortis en même temps, ensuite on est sur un rythme à peu près tous les 4 mois, parce qu'on est dans une génération, dans un système maintenant où les lecteurs, les spectateurs, les téléspectateurs ne veulent plus attendre. Et moi aussi en tant que lecteur, j'aime pas attendre, surtout pour une série comme ça. Même si chaque album est conçu pour être lu de manière indépendante, il y a quand même un fil qui fait qu'on a envie de savoir pourquoi il y a tout ce mausolée intergalactique à cet endroit-là.
Là, je me fais tout petit parce que sur la série Seul, qui est exactement le même principe, on met des fois 2 ans entre chaque épisode et que la plupart de nos lecteurs veulent vraiment nous tuer, quoi. Donc, bon. Mais ici, c'était très bien que ça sorte de manière très rapprochée, mais on n'y arrive pas toujours. Donc effectivement, il fallait qu'il y ait une fabrication presque en studio, sauf que ce n'était pas vraiment un studio, mais qu'il soit en tout cas collectif pour permettre ça.
Oui.
Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé par le premier album au niveau de l'écriture. Le premier qui était libre, c'était Davy Mourier, avec qui j'ai coécrit l'album pour Lorenzo De Felici. Et c'est le 5e album. Donc j'ai commencé à écrire le 5e album, sans savoir ce que mes autres co-scénaristes allaient me proposer pour faire les 1, 2, 3, 4.
Ce qui explique pas mal de choses sur la narration d'un seul coup. Hein.
Mais c'est vrai que c'est un album chaque album est indépendant. David Mourier, lui, il est fasciné par les morts vivants. Donc on s'est dit, on va faire un album où tous les morts du cimetière intergalactique se réveillent. Et ce sera rigolo, enfin rigolo, plus ou moins. Ça dépend si on est les personnages ou les lecteurs. Et puis ça s'est bien passé. Puis après, j'ai récupéré des idées de ce volume-là pour les mettre dans les albums précédents. Sur le Bertaille, on voit l'agent qui est Anne Ninurta du tome 5 essayer de désinguer des méchants.
Alors il y a effectivement une conception globale avec les reboots. En même temps, l'unité est donnée finalement par le dialogue qui permet d'unifier le style, mais à côté de ça, chaque scénariste a une certaine indépendance. Néanmoins, est-ce qu'il y avait des cahiers des charges spécifiques à respecter, indépendamment évidemment des lieux et du contexte, mais je pense plus en termes de structure?
Bah, tu peux peut-être Fabien dire comment je t'ai pitché le truc et voir les contraintes que je t'ai données.
Bah, en fait, déjà, c'est ce que tu as évoqué là. C'est la particularité de l'écriture, elle était quand même qui est un concept général, mais aussi un ordre de fabrication qui était lié aux contraintes des uns et des autres. Donc, c'est une contrainte extérieure au projet, mais c'est pas loin d'un truc oubapien dans le sens où il faut faire avec un ordre qui sera parfois compliqué à mettre en œuvre. D'ailleurs, j'aurais pas voulu être le chef d'orchestre de ça du tout. Et du coup, je dirais qu'entre ce que m'a dit Lewis sur cette espèce de galaxie géante, nécropole, ce paquebot au milieu et puis les reboots, y avait une des choses qui, moi, s'est imposée très, très vite dans ma tête, c'est l'idée qu'il fallait être très rapide à proposer des idées, en particulier de technologies, de choses qui étaient possibles ou pas dans cet univers, parce qu'en gros, c'était un peu le principe du premier arrivé, premier servi. Si à un moment donné, j'ai envie que il y a des robots qui soient programmés de telle manière parce que j'aime bien Asimov, il valait mieux que je le dise très vite. Je crois que quand j'ai commencé à m'en charger, il y avait la technologie des plugs qui était évoquée, à savoir le fait qu'il y ait une sorte de petite prise derrière la tête et qu'on peut plugger un savoir, mais un seul, si je ne me trompe pas.
Un seul, oui.
Un peu le même principe que dans Matrix, où on peut apprendre le karaté à Keanu Reeves d'un seul coup. Ben là, c'est ça, avec une seule compétence. Donc ça, ça m'a été imposé parce que l'idée avait dû venir de quel album d'ailleurs, je ne sais pas.
Aucun souvenir.
Oui, d'accord. Voilà, on voit à peu près la haute tenue de ce projet. Merci au maître d'œuvre. Tu as une responsabilité aussi, hein, si je peux me permettre. Donc.
Non.
Oui, c'est ça. Donc en tout cas, l'idée des plugs cérébraux était déjà là.
Non, c'est dans de Félicie avec Mourier, à un moment, il y a besoin d'un artificier parce que l'autre meurt et on lui prend son plug pour le mettre dans quelqu'un d'autre.
Donc c'était le tome 5.
Le tome 5,
en fait,
oui.
C'est ça. Et donc, ce qui d'ailleurs au passage m'arrangeait pas plus que ça, mais ça faisait partie des règles. Et comme je voyais qu'il y avait encore 7, 6 albums qui étaient en train de se fabriquer en même temps, je me suis dit, j'ai intérêt, si j'ai des idées de SF, à très très vite les imposer. On est presque dans une stratégie de jeu de go pour essayer d'encercler les adversaires, pour lesquels j'ai au demeurant beaucoup de respect, mais que je voulais coincer à mort. Mais surtout parce que je voulais pouvoir écrire ce que j'avais envie d'écrire et qu'il y avait des idées qui traînaient par-ci par-là qui me plaisaient, qui n'était pas forcément compatible avec une question avec telle ou telle question de technologie. Là, je peux faire juste un pas de côté pour dire qu'en tant que scénariste de BD en général, mais de SF en particulier, j'ai plein d'idées que je vais noter comme ça sur des petits calepins qui sont parfois pas cohérentes avec un seul et même univers de SF. Une idée ira bien avec du cyberpunk, mais pas du tout avec du space opéra et réciproquement. Et j'attribue mes idées en fonction ensuite d'un projet qui va être cohérent avec ce type d'idée. Et ici, comme c'était relativement ouvert, comme c'est un peu une sorte de bac à sable, comme on dirait pour du jeu vidéo, ça laissait en réalité beaucoup de liberté jusqu'à ce que quelqu'un s'empare d'une idée et dise « ça y est, maintenant, il y a cette technologie-là ». Donc, au départ, moi, j'avais une idée, par exemple, de psycho-hacking, le fait qu'on puisse hacker le cerveau de quelqu'un, ça m'était cher, j'avais envie d'évoquer ça. Sans doute qu'en arrivant deux ou trois albums plus tard, j'aurais pas pu le faire parce qu'une autre technologie aurait été imposée par un autre scénariste. Ça faisait partie, je trouve, de l'intérêt pour moi de bosser sur un projet comme celui-là.
Et tu as aussi fait dans ton histoire la cyberguerre intergalactique. Ah oui. Qui dure combien de temps?
Un quart de millième de seconde, donc 14 minutes je crois, elle dure quand même 14 minutes, mais il doit y avoir des milliards et des milliards de morts. Effectivement, ça au départ c'était plus une espèce de gag, parce que ça nous amusait assez d'imaginer qu'une guerre galactique, elle va sans doute être très rapide, parce que les armes sont extrêmement puissantes, et je crois que tu l'as récupéré...
Je l'ai récupéré dans un ou deux albums,
oui, c'est ça.
Dans le boulet aussi il l'a récupéré, comme c'est un robot qui est le personnage principal, et comme c'est une guerre avec beaucoup de robots...
Oui, c'est ça. Une guerre du futur, on part du principe qu'elle peut durer un quart d'heure et puis que c'est réglé, mais qu'il y a quand même des milliards et des milliards de morts, mais on ne perd pas de temps dans les finitions. Quoi. Voilà, c'est un peu ça.
Il y a un point en fait, sur lequel on ne va peut-être pas suffisamment insister, c'est que la série est quand même assez humoristique.
Non. C'est bien qu'on soit là ce matin pour le préciser, parce qu'il y a vraiment un malentendu là-dessus. Quoi.
C'est la tragédie pure.
La relecture de la liste de Schindler qu'ont pu faire Olivier et Lewis, par exemple, avec Retour vers le Führer.
On va en parler, t'inquiète.
C'est au contraire, moi j'ai été hyper touché par chacune de ces pages.
Non, mais par contre, alors plus sérieusement, parce que l'humour c'est vachement sérieux, merde. Y a finalement, en fait, quand on regarde la littérature, science-fiction et humour, il n'y a pas tant d'écrivains qui se sont aventurés dedans, comme s'il y avait parfois une sorte d'incompatibilité. Enfin bon, on peut citer des noms, mais il n'y en a pas tant que ça.
Moi, en fait, j'étais vraiment inspiré quand j'étais gamin, j'ai entre 16 et 20 ans, j'ai lu beaucoup de SF, et mon auteur préféré, c'était Frédéric Braun.
Ah, pareil, bah,
c'est pas pour rien.
Braun, Shelley et compagnie, bon, ça, c'est certain, oui. Mais on va malheureusement pas en citer des centaines, quoi. Et la question, c'est... Alors, généralement, une des manières de faire, c'est d'exagérer un certain nombre de codes ou de poncifs de la SF. Mais on tombe vite dans la caricature. Comment vous avez géré l'apport de l'humour dans ce récit? Alors ça, c'est... En plus, avec une énorme nécropole à côté qui fait la taille d'un système solaire, c'est pas le décor.
Ouais, l'humour est vraiment géré plutôt par les personnages, les relations entre les personnages. Et quand j'ai écrit la continuité dialoguée du bouquin de Fabien, effectivement, il y a eu un souci parce que le personnage qu'on avait créé ensemble pour Fabien n'avait pas le cynisme que moi je lui ai donné au niveau des dialogues. Donc il m'a fait vraiment enlever plein de choses qui étaient très drôles, fabuleuses.
C'est ça, qui rendaient ce livre unique. Et ça me faisait chier.
Mais c'était très compréhensible parce que le personnage est... on va pas dire que c'est un fou de Dieu, mais c'est quelqu'un qui croit en une religion, en quelque chose. Et il était hors de question pour Fabien que cette personne-là blague toutes les deux pages.
Bah, en fait, ça a été... Alors, je reviens un peu en arrière en disant une des motivations que j'ai pu avoir de bosser sur ce projet, c'était aussi de bosser avec des gens que j'admire. Il se trouve que je suis encerclé, donc... Mais ça m'a fait bizarre au départ. Enfin, que ce soit Olivier ou Lewis sont des gens que je fréquente maintenant depuis assez longtemps dans les festivals. Mais bosser avec, c'est autre chose. Et en particulier au niveau du scénario, parce que j'ai plus eu affaire à Lewis pour établir le scénario, j'avais un peu envie de voir comment ça fonctionnait dans la tête de Lewis, comment il avançait, alors que je sens bien que j'ai une façon d'écrire qui est très différente. Et je pense que ta motivation de bosser avec plein de scénaristes était un peu la même, c'était d'aller voir comment bossaient d'autres gens.
Voilà, voir la cuisine de chacun.
C'est ça, au point d'ailleurs qu'il y avait des personnes que tu comptais éventuellement contacter qui étaient aux antipodes, a priori, de ce qu'on attendrait de tes collaborations.
Oui, oui.
Je ne sais pas si on peut citer jusqu'au plus extrême de ceux que tu aurais pu inclure dans un tel projet, mais ça allait quand même assez loin, ça, on sortait très très loin de l'association.
Oui, c'était le jeu, c'est effectivement, s'entourer de... Mais en fait, c'était pareil pour au niveau du graphisme. On s'est dit avec Olivier jusqu'où on va au niveau du graphisme. Est-ce qu'on peut avoir des gens comme Kilofer? Est-ce que c'est jouable ou pas? Est-ce que Olivier Balèze rentre dans le cadre ou pas? Et comme il a un dessin très 60s, ça allait. Mais il y avait d'autres auteurs dont on adore le travail qui étaient trop justement courant association indé et c'était pas possible.
Et dans cette rencontre narrative, enfin moi c'est ça qui m'intéressait. Donc on était effectivement à Lyon. Ce qui était intéressant, c'est que on avait vraiment deux façons d'approcher le scénario complètement différentes qui se confrontaient. Tu m'arrêteras si je dis des conneries, mais je dirais que Lewis, je pense qu'il avance... Enfin, l'expression que j'emploie souvent quand j'en parle, c'est qu'il avance comme ces tourniquets à cliquets qui empêchent de repasser dans le sens inverse dans le métro ou dans les parcs d'attractions. Quand une idée a été actée, le cliquet est mis en place, on ne revient pas en arrière. Alors moi, je serais plutôt une espèce de porte ouverte à tous les vents, je reviens dans un sens, je repars, j'y passe des mois et des mois. D'ailleurs, je suis très lent, beaucoup plus laborieux que ne me peut l'être Lewis. Et donc, en fait, une bonne partie de notre travail consistait à acter des idées pendant la journée. Moi, un peu comme Pénélope, je les défaisais pendant la nuit. Et le lendemain matin, un peu penaud, j'arrivais et je disais à Lewis, écoute, dans les trucs qu'on a actés hier, il y a des machins, je reviens dessus, je trouve que ça va pas, il y a ceci, cela... Ce qui était bien, c'est qu'il y avait suffisamment, je crois, d'ouverture d'esprit de part et d'autre pour qu'à la fois, quand même, j'acte que des fois, des choses, on allait les garder même si je n'étais pas 100% satisfait parce que je suis trop pinailleur, quoi. Et inversement, Lewis, il mettait du sien en disant, d'accord, on peut revenir sur telle et telle idée si tu as des arguments. D'où l'intérêt pour moi de ne pas dormir du tout et de peaufiner mes arguments. Et effectivement, un des points de fond, mais qui est plus apparu effectivement au moment de l'écriture du storyboard, parce que comme Lewis est très rapide, on a bossé 3 jours, et puis je crois un ou deux mois après, il m'a renvoyé le storyboard complet, c'était quasi finalisé, c'est-à-dire que j'aurais pu dire simplement feu vert et c'était parti. Mais comme je voulais un petit peu plus mettre ma patte là-dedans, aller dans le moteur, j'ai eu envie d'aller voir qu'est-ce que je pouvais y apporter. Et le point central, c'était vraiment une question de ton. C'est est-ce qu'on aborde ça sur un mode qui est essentiellement et majoritairement humoristique? ce qui n'est pas un souci dans l'absolu, c'est un choix. Ou est-ce qu'on essaie d'y mettre un peu de premier degré? Et je pense que ça, c'est un vrai thème de fond qui a pu d'ailleurs nous, si ce n'est nous opposer, en tout cas, nous caractériser dans nos carrières. Quand moi, je débutais dans la bande dessinée, je voyais que Lewis allait dans une direction qui me fascinait, mais qui était assez loin de ce que j'appellerais le premier degré. Et je pense que le risque du premier degré, c'est le ridicule, c'est qu'en fait, si on essaie au premier degré de faire quelque chose d'émouvant, par exemple, et qu'on se plante, on n'est vraiment pas émouvant, on est mauvais, quoi. Et à certains égards, je me méfiais aussi, à l'inverse, de quelque chose qui aurait été trop dans l'humour, l'ironie, le cynisme, ce qui peut être très réussi, mais qui empêche d'aller dans cette direction du premier degré, que j'ai essayé d'explorer dans des séries comme Le Marquis d'Anaon, des choses comme ça, mais qui sont très compliquées à obtenir. Et dans le cas de L'Évangile selon Emma, effectivement, je me disais que si le personnage d'Emma était cynique, c'était quand même un peu un contresens par rapport à une croyante. Elle est croyante, et j'avais envie, qui plus est, que ce soit une croyante en qui on puisse, à qui on puisse un petit peu donner une part d'empathie, qu'on puisse aller un petit peu dans sa direction, parce qu'on peut tout à fait être athée, et j'espère avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est croyant, si cette personne dégage quelque chose qui va être un petit peu plus incarné. Peut-être que le cynisme, à mes yeux, empêchait qu'on puisse avoir cette empathie vis-à-vis d'elle. Ceci étant dit, il y a quand même peut-être quelques traits d'humour qui peuvent lui échapper ça et là, mais on s'est rattrapé sur d'autres personnages, dont le robot, qui était un peu mon personnage préféré de sans doute de cet épisode, parce que justement un robot permettait un type d'humour, un humour de robot d'ailleurs, qui était tout à fait l'endroit où moi je pouvais mettre aussi, parce que j'adore l'humour aussi bien sûr, mais là où je pouvais mettre mes gags sans que ça vienne atténuer le personnage d'Emma.
Mais de toute façon, l'Évangile selon Emma est un album peut-être un petit peu à part dans la continuité, parce que d'abord le personnage a un rôle qui est pas immédiatement défini, dans le sens où il poursuit un but personnel par rapport à la continuité, à celui qui est affecté par le commandant du vaisseau. Et ça me fait rebondir immédiatement sur un point, c'est que les protagonistes sont toutes des femmes dans tous les albums.
Jusqu'à présent.
C'est un scoop.
Y aurait-il un trans-scoop?
J'ai dit jusqu'à présent, ça ne veut pas dire ça change.
Oui. Donc, ce sont les personnages principaux, en tout cas pour l'instant. Elles sont volontaires, indépendantes, et alors néanmoins, bon, roulées comme des sabliers. C'était le cahier des charges graphique.
Ah tiens, tournons-nous vers le principal coupable.
Alors, est-ce que ça a été...
Balance ton vatine.
Ouais, est-ce que ça a été... C'est pour ça que je me disais qu'ils avaient commencé à s'ennuyer, donc on allait parler de grosses poitrines. Est-ce que ça a été vraiment difficile à gérer, ça?
Pour moi,
le côté...
Oui, parce que Vatine m'a dit à la base, je veux des filles avec des gournichons. Et je lui ai dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas, ça, je veux pas.
Hypocrite.
En BD, tu veux dire?
Oui, des gournichons, puis apparent avec un uniforme, on voit bien, puis je veux aussi des nazis, donc c'était vraiment le top.
Plus les zombies.
Non, les zombies c'était ailleurs, mais lui c'était les nazis et les grosses poitrines. Et moi c'est pas mon kiff à la base.
Non, moi je voulais que l'esthétique soit une esthétique de un peu à la Wallace Wood, les comics de science-fiction des années 50, ces comics et tout. Donc des filles en bikini dans l'espace avec un bocal à poisson sur la tête. Et, un tuyau articulé.
Les premiers designs qu'il a fait, c'était un personnage, il y avait juste le bocal à poisson, et puis torse nu quasiment, un petit truc pour cacher les seins, et dans l'espace. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être torse nu dans l'espace
on comprend la différence entre nous. Quoi. Qu'est-ce que c'est que cette question?
J'ai inventé l'astrospray.
Voilà, puis après on fait l'astrospray.
C'est le fameux scaphandre.
C'est bon.
Bah oui, ben voilà. Ça tombe sous le sens.
Il y a des mecs qui bossent dessus.
Ceci dit, quand même, les gros seins, c'est bien gentil, mais en apesanteur, au niveau des seins, ça pose quand même quelques problèmes. Je veux dire, ça se comporte comment?
Ross Meyer n'a pas fait son grand chef-d'œuvre qu'on attendait.
Alors, il y a une vidéo qui traîne sur le net. C'est un tournage du swimsuit special de Sport Illustrated avec Kate Upton, qui aurait pu jouer dans Infinity 8. Et où elle est dans un Boeing 0G, et ils font tout un shooting avec elle, donc pour les curieux, allez jeter un œil.
C'est un peu comme dans une piscine finalement.
Voilà.
Donc là Olivier, en fait, derrière on a vu les designs que tu as fait pour la série, parce qu'en fait, tous les dessinateurs avaient un cahier des charges aussi visuel. Ils n'allaient pas partir sur n'importe quoi. Et Olivier, il a fait quand même un gros boulot en amont.
Ouais, j'avais fait quelques... Au moment du projet Spirou, j'avais dessiné le vaisseau, qui finalement n'a pas beaucoup changé. Il a juste... dans Spirou, il devait faire 800 mètres. Là, on a rajouté un zéro de plus. Et après, moi, ce que je trouvais marrant là-dedans, c'est... Bon, je viens de la BD un peu mainstream, Aqua Blue, Star Wars et tout. C'est l'idée que quelqu'un comme Kilofer aussi puisse... ou qu'Olivier Balès puisse récupérer les designs pour les inclure dans leur récit. Alors moi, à Montpellier, je bosse avec les gens d'Atacus, qui est une compagnie qui fait de la sculpture, de la figurine. On a une imprimante 3D là-bas. Et du coup, on a modélisé le vaisseau en 3D. J'avais fait des fichiers exportables pour les dessinateurs qui voulaient récupérer ça sur SketchUp ou autre. Mais pour les plus analogiques d'entre eux, donc on a fait un jouet du petit vaisseau. Donc on a envoyé ça à tout le monde.
Une maquette, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils pouvaient limite produit dérivé, quand même. Et ils pouvaient le récupérer, le faire tourner, le mettre en situation, le dessiner.
Comment on passe de Star Wars à Infinity ?
Ben, déjà, je suis passé de Star Wars à Star Trek, mais avant, on en parlait un peu hier, en parlant des effets spéciaux. Moi, depuis gamin, je suis passionné d'effets spéciaux. J'étais fan des séries de Jerry Anderson, tout ça. Donc, ça me permettait aussi de récupérer toute cette esthétique-là. Jerry Anderson, les premiers Star Trek et tout. Un futur très lisse, très, très propre.
D'ailleurs, il y a un point, l'influence du comics américain est assez évidente dans la série, mais par contre, si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que le découpage, lui, est plutôt assez européen. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'éclatement qu'on peut avoir dans les planches des comics.
Sauf juste derrière, là, un contre-exemple.
Oui, exact.
Excuse-moi.
Ouais, non, mais t'as raison. Mais ceci dit, ils y vont quand même encore plus fort dans le comics américain, quoi, où ils s'éclatent. Mais ça, le petit format le permet plus facilement. Ceci dit, la dramaturgie et notamment l'humour sont davantage développés sur de la case fixe qui permet d'amener une rythmique plus que par la multiplication. Des angles. C'est-à-dire qu'on a, quand on regarde...
Oh, encore une page éclatée.
Ça suffit le mauvais esprit maintenant.
Non, mais c'est... franchement, il est terrible. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Oui, voilà. C'est que tu le joues, tu le mimes, tu mimes les personnages devant les dessinateurs, comment tu te débrouilles pour faire
oui,
passer...
Oui, je me déguise en clown, je vais chez chacun, ouais. je fais un truc pendant une semaine, ils me prennent en photo.
Bon, avec les faux seins, évidemment. Aussi,
c'est, on est bien d'accord. C'est pour ça que j'ai accepté le projet, entre autres.
Ben non, je fais rien du tout. Je fais un découpage tout simple et après, c'est au dessinateur de réinterpréter mon pré-découpage.
C'est un découpage façon Lapineau, hein, je précise. Oui, donc, il y a vraiment une part de recréation de la part de dessinateur.
Ça, c'était justement une autre question. Il y a eu un storyboard qui a été en fait fourni à chaque dessinateur.
Oui.
C'est ça, hein, on
exactement,
est d'accord.
Oui.
Et succinct, mais suffisamment précis.
Oui, c'est ça, avec un bonhomme patate.
C'est ta manière d'écrire, en fait.
Oui, moi, je ne peux pas écrire juste sur un clavier en disant il se passe ceci, il se passe cela. J'ai besoin d'avoir des cases dans lesquelles je mets les personnages et je vois tout de suite si c'est un plan large, plan serré. Et je joue beaucoup aussi avec les ellipses entre cases. Donc, j'ai besoin d'un visuel.
Ce que tous les dessinateurs ne veulent pas. Hein. Bon, là, je pense que tout le monde était prêt à jouer le jeu, mais à une époque où je posais la question à mes dessinateurs, savoir s'ils préféraient un découpage écrit ou storyboardé, ils préféraient largement écrit, parce que la mise en scène et le découpage de la page faisaient partie de leur plaisir premier, et que si je leur proposais quelque chose, c'était déjà un tout petit peu forcer leur imaginaire dans une direction. Mais ça dépend vraiment des dessinateurs. Ça.
Oui, j'ai travaillé aussi avec Mathieu Bonhomme comme toi et il ne voulait pas que je fasse comme ça. Donc j'avais tout écrit à la main.
Tu t'es forcé, quoi.
Et après, j'ai tout réécrit
sur
clavier. Mmh.
Bon, il y a l'album emblématique de Retour vers le Führer. C'est pas mal.
C'est un titre qui est tellement con qu'on a décidé de le garder. Mais c'était pas forcément mon kiff parce que.
Oh, mais c'est bon de t'excuser à chaque instant, s'il te plaît.
Non, mais je sais qu'il va m'attaquer, Fabien, là-dessus.
Bon, en même temps, comme il veut revenir à la vie, vous auriez très bien pu l'appeler La Fureur de Vivre.
Oui, aussi.
Ça a dû déjà être fait, je pense. Ouais. Hein.
Sinon, bon, plus sérieusement, le thème du nazisme, mais bon. Il n'est pas totalement tendance. Est-ce que ça a gêné dans le sens où finalement
comment ça c'est pas tendance.
Le fan club des nazis, un art de vivre. Le pire c'est qu'il est plutôt assez sympathique au départ, vu qu'ils se rendent absolument pas compte de ce que ça
les gars,
signifie.
Ils ont alors du coup, le truc, quoi.
Nous en tant que lecteurs, on est à la fois en train de se marrer, puis en même temps, on n'est pas très, très à l'aise.
Ouais, il y a une petite gêne. En fait, bon, pour préciser le truc, c'est que c'est dans le futur, et il y a des paléo-nazis, c'est des gens qui aiment beaucoup le nazisme, mais ils n'ont rien compris au nazisme. Ils aiment la croix gammée, ils trouvent que c'est vraiment joli comme logo. Ils font des mugs avec, ils font des ballons avec, ils font un gâteau de l'amitié avec une croix gammée, et voilà. Et après, quand ils découvrent qu'il y a un V4 envoyé par Von Braun avec la tête d'Hitler dans le cimetière intergalactique, et ils vont ramener Hitler à la vie, Hitler va leur apprendre un petit peu ce que c'est que le vrai nazisme.
Ce qui est dommage, c'est que Rudsev n'a pas voulu jouer le jeu du merchandising jusqu'où on voulait le pousser. Parce que les mugs avec des croix gammées, je pense qu'elles auraient plutôt pas mal fonctionné, au moins auprès d'un certain public.
Oui, oui.
Ce qui me rappelle d'ailleurs que quand on avait sorti une série chez Delcourt qui s'appelait 7, j'avais commencé avec 7 psychopathes. Et dans les projets de couverture, l'un d'eux, de Sean Phillips, mettait en avant une énorme croix gammée. Et je ne sais plus quel commercial que je ne citerai pas m'avait dit « Là, on est en train de gagner 3 ou 4 000 ventes. »
Je suis en train de faire le merchandising.
Il y a quand même un marché de gens qui achètent tout ce qui a trait à la Deuxième Guerre mondiale. Pas forcément des pro-nazis, mais des gens qui sont fascinés par la Deuxième Guerre mondiale. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?
C'est le merchandising que je vous ai fait pour vous.
Je ne peux pas regarder ça en même temps que je parle.
Et donc, alors, c'est trop gentil.
Donc on aurait dû jouer cette carte. Bon, ça,
je voulais le remplir de bretzel. Mais alors j'en ai pas trouvé à Nantes. C'est terrible quand même. J'aime bien cette ville, mais ça vaut quand même pas Strasbourg. Hein.
Non, on est d'accord, pas Nantes, t'as pas pour ça. Les petits lus, non, c'était pas des bretzel.
Non, 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 ça rentrait pas. En plus, c'est trop petit.
Quoi qu'il en soit, quand Olivier m'a parlé de vouloir faire des nazis dans son album, moi j'étais un petit peu coincé, et puis c'était tellement bête, je me dis pourquoi pas, allons-y, donc c'est pour ça que j'ai carrément mis Hitler, parce que tant qu'avoir des nazis, autant avoir leur leader, mais ce que je voulais c'était surtout quand même raconter quelque chose, comme ça dure 8 heures, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la création du 4e Reich en 8 heures, comment Hitler haranguait les foules, comment il arrivait à convaincre tout le monde. Dans l'album, j'ai même mis deux phrases vraiment d'Hitler qu'il utilisait à l'époque. Et pour moi, c'est important qu'on s'amuse avec, mais qu'il y ait du fond. Et j'étais très surpris, et Olivier aussi, quand le musée du judaïsme a fait en sorte que nos planches étaient exposées là-bas. Donc on s'est dit, ça va, on ne s'est pas planté. Le message est bien passé, on ne se moque pas des juifs, et on casse bien du sucre.
Ni des nazis.
Et ils avaient lu la ligne de dialogue qui m'a quand même éclaté de rire, à savoir, je ne peux pas tuer Hitler, c'est Shabbat aujourd'hui.
Oui, parce qu'il doit appuyer sur un truc un peu électrique et ce n'est pas possible.
Bah, celle-là est quand même gonflée.
S'il n'y avait que ça.
Repartons un peu sur le graphisme aussi, qui est carrément rétro, 60s. On est quand même assez psychédélique. Est-ce que ça, c'était un choix d'origine ?
Olivier, oui.
Oui, c'est un choix d'origine, en tout cas pour ce qui me concerne, mon bouquin. Alors c'est vrai que je reviens à cette histoire de pages éclatées. C'est moi une de mes influences.
Celle-là n'est pas éclatée.
Ouais, une de mes influences pour Retour vers le Führer, c'était quand même Kirby, en tout cas dans les scènes à l'extérieur du vaisseau. Mais en même temps, bosser avec le découpage de Lewis sur un mode très, très gaufrier, je permettait aussi de jouer la carte du classicisme que je n'avais pas forcément joué dans mes bouquins précédents. Donc,
encore une page éclatée.
Ouais.
Ça suffit maintenant.
Avec Martin, l'album avec Martin Tristram et Chris au co-scénar est bien psyché, parce que là on est dans les années 60, des happenings théâtraux et tout.
Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a plein de manières d'interpréter rétro-futur. Chacun avait sa façon. Et ce que je trouvais intéressant dans le projet, il était là. C'est que Olivier, tu as une façon de le faire qui est vraiment en plus avec ta patte, qu'on reconnaît immédiatement. Il fallait que chacun trouve son espace là-dedans pour pas qu'il y ait non plus une redite le long de 8 albums.
En général, sur des séries concept comme ça, il y a plutôt tendance à unifier, même si c'est dessiné par plusieurs dessinateurs, d'unifier le style de dessin. Je trouve que c'est un peu le contraire, comme Lewis faisait les continuités dialoguées à l'arrivée, le ton est plus dans l'écriture. Et en revanche, au niveau dessin, c'est vraiment hétérogène, ça va du mainstream d'un côté à la BD indé de l'autre. C'est assez œcuménique, quoi.
Un exemple type, puisqu'on l'évoquait avec des fois dans les contraintes, le fait par exemple de se dire tiens, on va faire du pulp, et dans le pulp, il y a aussi effectivement des fois des filles à gros seins, et comme le dit Lewis, on peut se retrouver éventuellement un tout petit peu coincé avec une thématique quand on se veut ou se prétend féministe, et qu'on fait, à un moment donné, on se dit ça fait partie du jeu, de la grammaire de ce jeu-là. Avec Olivier Balèze, à un moment donné, Olivier commençait à aller vers un style qui tentait de faire comme Olivier, l'autre, Vatine. Et on a eu une vraie discussion là-dessus. J'ai dit à Olivier Balèze, non, je crois que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de le faire parce que ce sera de toute façon une redite. Ce ne sera pas fait avec le même humour. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on ait un autre modèle. Et c'est en ça que j'avais commencé à l'orienter vers une autre Emma, d'ailleurs, qui m'a donné l'idée du prénom, qui était Emma Peel dans Chapeau melon, bottes de cuir, qui est finalement une façon de représenter la femme, mais avec... derrière une façon de l'incarner qui était tellement unique dans cette série que moi ça me permettait de trouver un ton à la fois très décalé, assez lié à ce côté pulp, mais avec quand même une certaine façon de se comporter qui était dans mon esprit vraiment celle de Emma Peel, et donc un ton qui va avec. Et j'ai l'impression que chacun des auteurs, enfin je sais pas, toi tu étais assez central par rapport à ça, chacun des auteurs, que ce soit les co-scénaristes et les dessinateurs, ont cherché cette petite porte qui nous permettrait vraiment d'être nous-mêmes ou autre chose en tout cas.
Oui, c'est vrai. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'à la base, moi, quand j'ai commencé le projet, j'avais l'univers qui était un peu posé, mais je n'avais pas du tout encore la solution de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce cimetière intergalactique, pourquoi est-ce qu'il y a cette nécropole. Et c'est avec les discussions avec les uns et les autres que la solution est apparue. C'est que je m'étais dit, au tout début, je me suis dit, si ça se trouve, on va arrêter très vite parce que ça ne va pas matcher déjà avec les scénaristes, mais en plus de ça, je n'ai pas trouvé la vraie solution intéressante pour le final. Et avec Boulet et avec Emmanuel Guibert, tous les deux, d'un côté et de l'autre, m'ont apporté un morceau du puzzle final. Et ça, c'était vraiment chouette. Et il y a aussi, par exemple, Kilofer, pour bon, ceux qui ne connaissent pas Kilofer, c'est un des cofondateurs de l'association avec moi. Lui, je lui ai dit, tu vas faire le dernier album, ce sera plus simple et je vais le scénariser tout seul, parce que c'est un truc qui va regrouper plein de choses. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dessiner comme personnage? Et il a hésité longuement, parce que je lui ai un petit peu expliqué ce qu'il y avait avant. Puis il ne savait pas trop. Et comme il fait beaucoup d'autobiographies, il se dessine tout le temps. Je lui ai dit, quoi, tu veux te dessiner toi, et être le personnage principal? Il m'a dit, ouais, je n'osais pas le dire, mais j'aimerais beaucoup. Et en fait, ça, d'un seul coup, je me suis dit, bon, alors là, vite, il faut que j'appelle tous ceux qui sont en train de faire les albums. Heureusement, son personnage, lui, c'est celui qu'on voit dans tous les albums quand les personnages vont au QG au début. Et c'est lui qui briefe tous les agents. Donc, je me suis retrouvé avec des auteurs qui étaient presque en train de faire cette scène-là. Et qui, d'un seul coup, je leur ai dit, attendez, ce personnage-là, c'est pas une fille avec des gros seins, c'est un gros monsieur. Barbu et qui a 50 ans.
Et ce qui est quand même assez excitant aussi quand on y pense.
Ce qui peut être très excitant. Mais en tout cas, par rapport au design des uniformes qu'avait fait Vatine, qui sont faits pour des gens plutôt élégants, élancés et tout ça, le personnage de Kilofer qu'on voit de temps en temps à l'arrière, là, il ça colle pas. Mais ça me faisait rire d'avoir une espèce de gros patapouf en lycra.
Sachant que l'édition BD à l'heure actuelle nage parfois dans l'incertitude, est-ce que le projet a été facile à présenter à Rue de Sèvres, sachant qu'il est quand même atypique?
Bon, il y avait plusieurs éditeurs qui étaient intéressés par le projet, donc en soi ça n'a pas été difficile de le présenter. Ils ont joué le jeu à fond, ils ont compris ce qu'on voulait faire. Ils ont fait plein de plus produits pour chaque sortie d'album. On a eu des ballons gonflables à Angoulême qui restaient coincés en haut des tentes.
Qu'on a retrouvé un an après.
Responsable ici.
On a gonflé ils ont gonflé des milliers de ballons. Combien de tonnes d'hélium ont été gâchées là-dedans? Hervé, tu sais pas? 2 tonnes d'hélium. Donc voilà, on n'a pas fait
2 tonnes de talent gâchées aussi dans cette série.
On n'a pas fait plaisir à la planète, hein, mais bon, c'est pas grave, on s'est amusé.
Je crois que le paradoxe de l'édition bande dessinée, c'est que plus on se rapproche d'une situation compliquée ou éventuellement de crise, comme ça peut être le cas parfois, plus effectivement il peut y avoir des réflexes de repli, mais plus il faut jouer des cartes qui sont qui vont à l'encontre de ce qui est attendu, parce que sinon, à la limite de vouloir à tout prix border le truc en disant on prend aucun risque, c'est le meilleur moyen pour se planter, quoi. Donc ça oblige à prendre des risques. Après, je dis pas que c'est simple, surtout quand on met l'argent dedans. Donc c'est peut-être plus facile pour un auteur de prendre des risques. Il n'empêche que je pense que les éditeurs aussi ont besoin de parier des choses. Des séries sur lesquelles personne ne misait à une époque ont pu devenir à un moment donné des best-sellers. Donc je crois que dans le cas d'Infinity Eight, il y avait une vraie originalité, ce qui n'est pas forcément si fréquent que ça pour un projet concept, en fait.
Et c'est vrai que c'est un risque parce que, en gros, chaque album coûte un peu plus de 25 000 euros à fabriquer d'un point de vue auteur. Ça veut dire que sur 8 albums, il y a 200 000 euros à investir en créa. Il faut vouloir, quoi. Faut être investi, faut se dire qu'on y croit. Et c'est bien que Ruth Sèvres ait joué ce jeu-là.
Nous les remercions au passage.
Oui.
Oh là là.
Non, c'est trop corporate. Il faut dire un truc un peu négatif.
Oui, mais ceux qui me viennent à l'esprit, on peut vraiment pas en parler.
Infinity Eight est travaillé en collaboration avec le Comics Bureau.
Oui.
Quelques mots sur le Comics Bureau et en fait la manière dont il est intervenu dans le projet.
Alors Comics Bureau, c'est une petite société d'édition que j'ai montée avec les gens d'Atacus, Agnès Charvier et Olivier Stenfatter. Au départ, on faisait des sketchbooks. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on allait chez les copains dessinateurs, on faisait un peu leur tiroir et on allait leur taper des éléments de pré-production, d'albums et tout. C'est ce qu'on disait, c'était un peu l'équivalent d'un bonus dans un DVD de film, quoi. Et puis, au bout de quelques années, moi j'étais parti de chez Delcourt par contrat, j'étais pas censé revenir à l'édito pendant quelques années. Et donc, dès que j'étais libéré de ce truc, j'ai dit on revient à la bande dessinée. Donc, je suis allé chercher C'est là que j'ai voulu monter Newark, parce que c'est un bouquin qui me fascinait depuis gamin, rencontrer l'ayant droit de Stéphane Vuhl, on est devenus copains. J'ai dit, mais on pourrait faire la biblio de ton père. On a trouvé Ankama pour financer ça. C'était un peu le même schéma une fois que Lewis nous a pitché son concept d'Infinity Eight. Même schéma qui s'est passé avec Ruth Sèvres. C'est non. Comics Bureau est toujours fauché, on n'a pas de volant financier. De volant financier, donc il nous faut un gros studio.
Ça va peut-être changer là, avec ce nouveau deal avec Glénat.
Ouais, voilà, et là on vient de passer un deal avec Glénat, c'est tout récent, là, ça c'est finalisé à Saint-Malo la semaine dernière, à Quai des Bulles. Donc on va faire nos propres bouquins en coédition avec Glénat. Voilà.
Vous avez dit à un moment d'Infinity Eight que c'était un projet hybride à la manière de ce qui a été fait avec Last Man.
En fait, Last Man, ils ont pris le manga, ils l'ont fait un peu à la française comme ils voulaient, et nous, on a pris les comics et on l'a fait un petit peu à notre manière aussi. Malgré tout, c'est vrai que c'est à la manière comics, c'est au format comics, mais c'est pas vraiment du comics. Je sais pas comment les Américains vont le prendre quand ça va sortir. Il y a une boîte qui va le sortir avec un numéro par mois, et ce sera découpé comme on l'a découpé avec des numéros de 30 pages. J'ai aucune idée comment les Américains vont choper ce truc-là. C'est trop, à mon avis, c'est très très français au final.
Je pense que c'est comme une chanson en anglais avec un très fort accent. And it's so good. Ça va leur faire bizarre quand même.
Oui, oui.
Sinon, bon, évidemment, il y a énormément de références à la science-fiction américaine dans les albums. À un niveau personnel, qu'est-ce que vous pensez de la production américaine cinématographique actuelle? Notamment celle des super-héros, puisque bon, là, on est aussi dans un modèle super-héros dans le, avec Infinity. Quelle est votre appréciation de la situation actuelle, enfin, de la production?
On n'est pas dans un modèle super-héros avec Infinity, on est dans un modèle un peu super-production, beaucoup de moyens. Sauf qu'au cinéma, de ce que je vois, en tout cas moi j'adore les effets spéciaux, mais tout le budget sur les effets spéciaux et pas du tout sur les scénarios, donc c'est un peu pénible. Et c'est vrai que les séries de SF les plus intéressantes, c'est à la télé que ça se passe. Au cinéma, on en a plein les yeux, mais pas plein le cerveau.
Ça balance, je pense, entre deux excès, qui sont un peu ce qu'on décrivait sur la crise dans la bande dessinée, c'est que ça oblige quand même le cinéma américain à prendre des risques parfois. On ne peut pas le retirer que des fois, ils font des paris financiers qui sont monstrueux sur des franchises pas forcément très connues, en mettant des auteurs dessus. Je pense à un exemple comme Les Gardiens de la Galaxie, dont le premier était plutôt une bonne surprise, parce que c'est des effets, des moyens de fou avec plutôt un auteur derrière. Je ne sais pas ce que donne la suite, mais... Et puis ça donne aussi, malheureusement de l'autre côté de la médaille, effectivement de vouloir à tout prix assurer le coup, parce que l'argent qui est mis dedans est tellement colossal qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre de prendre de risques, alors qu'ils devraient, mais c'est compliqué. Et ça veut dire un scénario qui est le même, effectivement décalqué, avec le fameux modèle dont le nom m'échappe, mais où on peut dire à la minute près quel va être le retournement qui amène à ce qu'on comprenne enfin que ça y est, le héros a compris quelle est son l'attente. Bon bref, et ce côté-là... Pour les gens qui aiment la narration, c'est assez gavant au-delà des effets spéciaux. Parce que l'effet spécial peut être super, mais il a un effet très vaporeux. Une fois qu'on l'a trouvé beau, il se démode très rapidement. Là où une histoire, si elle est plus profonde, elle va nous toucher beaucoup plus longtemps. Bon, là, je défonce des portes ouvertes, mais ça donne quelque chose qui est du coup un peu... C'est du easy listening version blockbuster. On le regarde, on l'oublie immédiatement, on n'a pas passé un mauvais moment. Et de temps en temps, quand même, un truc qui est très culotté, qui sort de ça, qui fait qu'on ne désespère pas du tout du cinéma, même si je suis d'accord, c'est à la télé que ça se passe le plus actuellement, ou en bande dessinée, parce qu'on parlait de ce qui est un énorme budget pour la BD, qui serait 200 000 euros. C'est une seconde d'une pub L'Oréal, et encore, je pense, pas encore finalisée. C'est-à-dire qu'on est dans des sous-budgets par rapport au cinéma. Mais pour nous, ça permet une super production. Pour 200 000 euros, c'est une super production hollywoodienne, à notre échelle, mais qui permet d'aborder tous les sujets qu'on veut. Cette chance-là, elle est incroyable.
Oui, parce qu'on a une liberté en bande dessinée qui n'est pas du tout la même qu'au audiovisuel. Nos moyens, c'est juste le crayon, le papier, point final.
Une bonne dose de mauvais goût aussi.
et le gros nichon. Là, par exemple, les nichons, ils sont en apesanteur, on le voit bien, hein, sur la couverture.
Tout ça a été très pensé, on dirait pas.
Première, là. Oui.
Si on pouvait éviter les photos là où je suis sur scène avec en même temps que les couvertures, trop tard.
Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour ordonner les thèmes de chaque album? C'est-à-dire,
non,
clairement, il y
avait
sûrement. Non, mais il y a sûrement un album où vous êtes dit bon, le thème est sympa, mais on va peut-être pas commencer par celui-là, par exemple.
Non, pas spécifiquement.
En tout cas, les
pas
nazis, spécialement. Ça leur a non, pas non, fait peur, les nazis.
La seule thématique, c'était les nécrophages. Comme il y a une race de nécrophages qui est dans le vaisseau, ils vont sentir tous les cadavres qu'il y a autour d'eux et il faut les neutraliser très vite. Donc le premier album, c'est effectivement les nécrophages qui prennent le pouvoir et qu'il faut les neutraliser. Et après, quand on revient dans le reboot, que le capitaine dise, bah voilà, eux, tout de suite, ils vont en prison parce que sinon, ça va être la merde et on va lancer une nouvelle aventure.
Mais cette idée, elle est venue quand? Par exemple, les nécrophages.
Elle est venue quand?
Assez rapidement, du coup, puisque c'était pas dans ton univers de départ. Enfin, quand tu m'en as parlé, il n'y avait pas immédiatement les nécrophages,
non,
je crois pas.
Non, il n'y a pas immédiatement. Mais il y avait. À un moment, je me suis dit, c'est normal qu'il y ait une race de nécrophages.
D'accord.
Et qu'il faille l'utiliser. Et après, comme je savais que j'allais chez Zep écrire le premier volume, et que le deuxième, c'était forcément celui de Vatine avec des nazis, donc je ne pouvais pas faire les nécrophages avec des nazis. Ça faisait beaucoup trop d'un coup, je pense.
Tiens, mais pourquoi?
En même temps, peut-être, on peut... Donc voilà, donc
le grand Infinity Eight reste à faire. Donc.
Mais par exemple, il y a le tome 3 et 4 qui ont été switchés à un moment. Mais en fait, c'était pas très important. Il n'y a pas
Parce
beaucoup
que
d'informations.
Martin était en retard.
Oui, Martin était en retard, donc on a passé le 3 en 4 et le 4 en 3.
Je voulais rebondir aussi sur l'ordre, la manière dont ça s'est fait. Et effectivement, donc c'est Lorenzo qui a commencé à dessiner les premières pages.
Cet album-là.
De toute la série. Et nous, avec Bertaille, on se disait, bon, c'est du comic book, c'est cool, on va plier ça, on va plier l'affaire en 3 mois, un peu la façon de dessinateur de comics. Et on a vu les pages de Lorenzo arriver, qui sont magnifiques. Et direct, ça, il a mis la barre tellement haut que on a mis plus de 3 mois là, à faire nos, ouais, à faire nos,
voilà,
nos
comme, bouquins. Comme c'était un petit format, ils se sont dit, bah, ça va être facile.
Oui, ça va être plié assez rapidement.
On fera une page en un jour et ce sera réglé.
Oui, enfin, on se dit toujours ça au début des projets collectifs.
Il y a quand même une bonne pagination par album. Hein.
Et 90 pages par album.
C'est un peu ce qui sous-tend les tentatives françaises pour faire des sortes de studios. C'est qu'on envie quand même une forme de narration très fluide qui serait celle des mangas, par exemple, ou de certains comics dans la durée, mais qui sont faites en général par des studios. Or, en France, on n'a pas cette culture-là au départ, même si c'est arrivé avec des gens comme Hergé, qui avait des gens bossant pour lui. Mais déjà, ce n'était pas mis en avant. Puis d'autre part, c'était quand même vraiment faire du Hergé. Et je pense que des choses comme, effectivement, comme le Last Man, comme la Infinity 8, ou ce qu'on est en train de faire avec des amis auteurs pour un projet qui s'appelle Le Dernier Atlas, où on sera 5 pour faire le projet, c'est aussi parce que c'est, dans le cas du Dernier Atlas, c'est une grosse pagination, c'est 3 fois 200 pages. C'est Hervé Tancrel qui fait le plus gros du dessin, qui est secondé par Fred Blanchard. Il y a aussi Gwen de Bonneval qui m'aide pour le scénario. Et c'est pas non plus tout à fait comme un studio de manga, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui prenne entre auteurs qui ont souvent des égos assez forts, ce qui n'est pas forcément le cas de mangaka, qui vont se dire à un moment donné, je suis salarié, je fais le truc, je fais mon taf, quoi. Comme aux États-Unis où ils sont capables de se dire bah tiens, je bosse pour telle série, je mets mon égo de côté. En France, je m'inclus là-dedans, hein, on a une façon d'approcher les choses qui est autorisante en bien ou en mal. On a beaucoup de mal à lâcher prise et se dire c'est pas mon projet, je le fais pour le collectif. Donc toutes les tentatives qui vont dans ce sens-là, je les trouve intéressantes parce que c'est une sorte de troisième voie. On ne fait pas comme un studio japonais ni un studio américain. Ça reste un travail d'auteur, peut-être un peu plus foutraque que ne le feraient des japonais ou des américains, mais je crois que c'est ça qui rend le truc intéressant. Et c'est ce qui fait que je crois qu'on est assez nombreux à vouloir faire avoir ces tentatives-là pour un autre type de bande dessinée.
Et heureusement qu'on n'est pas comme les mangakas, parce qu'eux, ils sont en studio, ils ont leur matelas de sol sous leur bureau, et ils font des nuits blanches.
Ça ne donne pas hyper envie.
Non.
Y aurait-il quelques questions?
Il reste 5 minutes de rigolade.
Sur les nazis, les nécrophages peut-être.
Non, eh ben, tant mieux, merci, au revoir.
Ah, si.
Ah, mince. Il faut lui donner un micro.
C'est devant. C'est au premier rang.
Il y a une dame qui arrive.
Bonjour à tous. J'avais une petite question pour Lewis Trondheim. Il n'y a pas eu d'envie de participer graphiquement à cette aventure?
Ah non, moi je suis plutôt très paresseux, donc je laisse faire les autres là-dessus. Non, en plus je ne sais pas dessiner comme ça du tout. Quand on m'apporte les albums en dédicace, je suis très embêté. Donc je suis tout le temps en train de m'excuser en disant voilà, je vais vous faire un poulet avec un bocal sur la tête, mais c'est tout ce que je peux faire.
Il n'est pas super fort en gros nichon.
Non.
C'est
non.
Ça le truc.
Tous mes personnages, ils ont des petits nichons et
des têtes de souris. Il s'excuse du dessin alors qu'il fait un gag de nazi. Je suis vraiment désolé pour le dessin, c'est mal foutu. Mon Hitler n'est pas très bien dessiné.
Voilà. Donc je fais des poulets avec une petite moustache sous le bec.
Ça marche toujours.
Non, je en plus, j'ai jamais dessiné d'album de science-fiction. L'autre truc de SF que j'ai fait, c'était avec Larsenet, c'était les Cosmos du futur, mais j'ai pas dessiné non plus. Le Density que je fais avec Stan Evans, je pense que voilà, je me sens pas à l'aise du tout graphiquement pour résoudre des problèmes comme ça. Je peux pas. Donc je connais mes limites et j'en tiens compte.
Merci.
Ah, une question là-bas.
Une là-bas.
Ah non, il se gratte la tête finalement.
Oui. Bonjour.
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 Bonjour. Bon, déjà bravo. Moi je suis fan de la série. D'ailleurs je me les relis en même temps, je me dis à chaque fois les détails que j'avais vus dans les derniers albums. Quand j'ai relis le premier, j'ai dit « Ah bah oui, ils sont déjà là, ceux-là. » Donc voilà. Après, quand vous avez expliqué comment vous avez construit les albums, je comprends un peu mieux aussi. Sinon, j'avais une question. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir un petit côté Minority Report dans le fait, par exemple, dans le premier, ils vont faire leur connerie, les nécrophages, et du coup, hop, on les arrête avant qu'ils la fassent. Voilà.
Sauf qu'ils l'ont vraiment fait. Dans Minority Report, on les arrête parce qu'on pense qu'ils vont les faire. Mais c'est une projection du futur. Là, on le vit pendant 8 heures, et donc le capitaine qui a la mémoire du truc, il sait qu'ils les ont fait. Il y a peut-être un petit côté mini
On pourrait leur dire, s'il vous plaît, arrêtez, ne le faites pas.
Non, mais c'était
des
nécrophages.
J'ai proposé ça, ça prenait 3 pages.
Non, non. Non, je pense pas qu'il y a pas ce côté. Oui, il y a un côté, effectivement, on arrête les gens en avance, mais ils ont vraiment fait les conneries dans un monde parallèle. Donc.
C'est une belle métaphore du projet. Hein. On aurait pu arrêter avant les conneries, mais on les a faites.
On assume jusqu'au bout.
Une dernière question ?
Vous avez faim, hein ?
Bon, bah alors, soit on reboot la table ronde, soit on va déjeuner.
On peut la recommencer, on recommence à zéro.
C'est parti. D'où vient cette idée étrange d'un reboot ?
Alors, merci à tous.
Merci
bon appétit.
Bien.
Merci. Merci.